Radio Clash, une émission réalisée par les jeunes de l'Entre-Liens. Et ouais, on a tous quelque chose à dire.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission Radio Clash. Alors aujourd'hui nous avons autour de la table plusieurs jeunes, nous avons aussi un invité, nous avons notre ingénieur du son Vincent aussi avec nous. On va faire un petit tour de table pour que chacun se présente. Alors là-bas au bout
Moi c'est Mathis.
Mathis, tu as quel âge?
Peut-être 15 ans.
15 ans.
Moi c'est Manon et j'ai 13 ans.
Moi c'est Daphné et j'ai 14 ans.
Moi c'est Evie et j'ai 13 ans.
Voilà, et donc moi c'est Damien.
Et moi c'est Vincent.
Voilà, et donc on va passer cette émission ensemble. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité. Désolé, on va parler un peu de ce satané Covid, mais on va essayer de l'aborder sous un jour un peu nouveau et sous la question des restrictions de liberté. On va essayer de voir un petit peu, est-ce que c'est normal de supporter tout ce qu'on supporte en ce moment? Avant de démarrer, on va écouter un premier sujet. C'est l'éphéméride du jour de ce 1er décembre. Éphéméride réalisée par Manon et Evie.
Le 1er décembre 1921, le célèbre tueur en série français, Landru, est condamné à mort par la décapitation à la guillotine. Les jurés déclarent Henri Landru coupable de 11 meurtres de femmes. Landru est guillotiné à l'entrée de Versailles à l'aube du 25 février 1922. Il fut surnommé la Barbe Bleue de Gambet. À son avocat, qui avant son exécution lui demandait s'il avait assassiné ses femmes, Landru répondit :
Cela, maître, c'est mon petit bagage.
You were scared, weren't you?
I wasn't that scared.
Yeah, you were scared.
On aurait pu également vous parler du 1er décembre 1982. Jour de lancement de l'album Thriller de Michael Jackson, qui deviendra le plus vendu de tous les temps, avec plus de 40 millions d'exemplaires.
On aurait pu aussi vous parler le 1er décembre 1974.
Jour où les 93 occupants d'un Boeing 727 de la TWA trouvent la mort dans l'écrasement au cours d'une tempête de la Pareille qui s'apprêtait à se poser à l'aéroport international Dulles de Washington.
D'où ma question, si Landru avait été condamné à la prison à perpétuité, aurait-il préféré mourir dans un crash d'avion ou dévoré par Michael Jackson et ses copains zombies?
Voilà, on est de retour dans notre émission et pour lancer ce sujet sur les restrictions de liberté, on a avec nous aujourd'hui un invité très spécial. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu notre invité du jour, Mathis, et notre invité? Il te corrigera s'il y a des choses.
On est avec Maxime Lambert, un chercheur en éthique et en droit de l'internet à la chaire ouvert, et professeur à l'école de recherche graphique à Bruxelles, et depuis 2 ans a commencé sa carrière sur YouTube et qui a déjà un peu plus de 4000 abonnés. Et on peut le retrouver, vous tapez sur YouTube Maxime Lambert et vous le...
Lambrecht, je pense.
Lambrecht, ouais.
C'est ça, Maxime?
Oui, il y a une adresse plus simple, c'est youtube.com/philoxime, puisque maintenant la chaîne s'appelle Philoxime, puisqu'on y parle notamment de philo.
Tu as des choses à rajouter sur toi? La présentation était plus ou moins juste?
Oui, c'est correct. Je suis chercheur en éthique et en droit d'Internet à la chaire ouverte d'éthique économique et sociale à l'UCL. Et aussi au Juris Lab à l'ULB. Et puis, je suis effectivement, disons, depuis peu, YouTuber, et je me consacre pas mal de temps à la vulgarisation des enjeux autour notamment de l'éthique et des théories de la justice sur YouTube. Mmh.
Alors, j'imagine que pour toi, on est dans une période où t'as pas mal de matière de travail, de matière à réfléchir, puisque depuis cette crise du Covid, on vit quand même une époque très étrange où la question des restrictions de liberté et des droits des individus est évidemment énormément discutée, puisqu'on vit toutes sortes de formes de restrictions. Alors, quels sont les types de libertés qui sont atteintes pour le moment par cette crise du Covid? Qu'est-ce que tu dirais là-dessus?
Il y a évidemment d'abord la liberté, une des libertés les plus basiques, qui est la liberté de se déplacer. C'est la simple liberté de se déplacer qui est fortement réduite, puisqu'on est plus ou moins intimé à limiter ses contacts, à rester le plus possible à domicile. Il y a évidemment la liberté d'association, liberté de voir, de rencontrer d'autres personnes et de pouvoir nouer des liens, etc., des liens sociaux. Il y a aussi, au-delà de ces libertés de mouvement et de ces libertés de rentrer en contact avec d'autres personnes, certains aspects aussi du droit à la vie privée qui sont menacés, voire qui sont auxquels il a apporté des limitations, notamment dans le cadre du contact tracing, où effectivement on a des données médicales qui sont utilisées, des données personnelles qui sont utilisées, qui sont mises dans des bases de données pour des fins qui sont tout à fait louables, évidemment, lutter contre l'épidémie. Il y a aussi la question des applis Covid, où là on demande aux individus volontairement de peut-être un petit peu prendre des risques pour leur vie privée. Mais donc ça, ça fait partie des libertés auxquelles il est apporté des limitations peut-être partielles, peut-être temporaires.
Ouais, on va essayer d'en reprendre certaines une par une. Peut-être t'as cité parmi les premières la question de la liberté de mobilité, le droit à la mobilité. Justement ici, en préparant un peu cette émission avec les jeunes, on se posait la question, est-ce que c'est normal? Et je vais leur poser la question à eux, parce que on n'a pas souvent leur avis et ils subissent tout autant que les adultes ces restrictions. Et parfois même, on peut imaginer que c'est d'autant plus compliqué quand on est jeune. Est-ce que ça vous semble normal, à vous, qu'on vous empêche de vous déplacer? Alors, vous avez évoqué tout à l'heure les déplacements à l'étranger, mais qui ont été limités à certains moments, qui le sont encore pour certaines destinations, je pense. Est-ce que ces limitations du droit à la mobilité, elles vous semblent normales? Qui veut répondre à ça en premier? Manon, peut-être?
Personnellement, ça ne m'atteint pas plus que ça, parce que je continue à avoir mes amis.
Donc j'aurais pu demander même, est-ce que ça vous semble possible de respecter ces... Donc toi, tu as l'air de dire...
C'est possible, mais je décide de faire sans, en fait. Le seul truc qui me pose problème, c'est par exemple pour les voyages. En vacances d'été, je devais partir en voyage et ça a été annulé. Donc, c'est pour ces choses-là que c'est plus... Comment je peux dire? Plus dérangeant.
Mathis, toi, ça te semble...
Pas assez compliqué pour aller voir aussi les proches qui sont à l'étranger. C'est compliqué. Bah, après, on est obligé de subir l'ascendance de la...
Mais est-ce que tu comprends les interdictions? Est-ce qu'elles te semblent normales? Est-ce qu'elles sont acceptables?
Non, pour moi, il y a le droit d'humain qui passe après.
Donc pour toi... Les droits des individus et la question du bien-être est un petit peu bafouée pour des raisons sanitaires, on va dire. C'est ça que tu veux dire?
Ouais.
Liberté, mon cul. Égalité.
Merci de nous joindre pour ce nouveau numéro de 7 en France, consacré cette semaine à l'impact de l'état d'urgence sanitaire sur les droits fondamentaux. Confinement, interdiction des rassemblements, limitation des déplacements, au nom de la guerre contre la pandémie, les libertés individuelles et collectives auront payé un lourd tribut.
Sur le port du masque, je ne vois rien de liberticide dans le fait dans cet inconvénient qui protège les autres. Il n'y a rien de liberticide là-dedans, à moins de penser que la liberté, c'est de marcher sur les pieds d'autrui ou de lui transmettre un virus.
Oui, on est libre, quoi. Apparemment, on est libre. Donc ça... Pourtant, il y a une chose qui me frappe, c'est que quand on dit liberté dans une chanson, il n'y a pas de malentendu. C'est-à-dire, les gens savent exactement de quoi on veut parler, sans aller plus loin.
Pour votre sécurité à tous, un couvre-feu de code jaune est actuellement en vigueur. Tout personnel non autorisé sera susceptible d'être interpellé. Pour votre sécurité à tous, un couvre-feu de code jaune est actuellement en vigueur.
Madame, Monsieur, chers amis, comme tous les Français, vous êtes attachés à la liberté et tout particulièrement à la liberté d'expression. Cette liberté essentielle constitue même la marque de l'esprit français.
Changer de maison, écrire des chansons en liberté. Sortir dans la rue, me sentir perdu en liberté. Vivre la vie de ces gens d'enfants.
Je suis très fatigué, Casimir.
Oh, Casimir, ça peut plus durer, mon vieux.
Il faut que tu débarrasses mon kiosque de tes bidons.
Il faut que je puisse vendre mes ballons.
Il faut absolument que je me repose.
Il faut. Mais ce n'est plus possible. Silence. Je ne suis plus libre. Je vais défendre les libertés de cette île.
On s'en fout d'enfiler le masque si ça peut épargner des vieux. Mais tu vois pas que ces putains de vieux, ils sont tous en train de s'étouffer dedans. À force de toujours vouloir éviter les risques, bientôt il faudra une dérogation pour ouvrir un paquet de chips. Alors vous les beaux costards qui décidez de notre sort, ne nous laissez pas comme ça, ça fait trop peur, faites un effort. Manipulez-nous mieux.
Liberté. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom.
À chaque seconde, nous vivions dans sa plénitude le sens de cette petite phrase banale, l'homme est mortel. Et le choix que chacun faisait de sa vie et de lui-même était authentique, puisqu'il se faisait en présence de la mort. Ainsi, la question même de la liberté était posée, et nous étions au bord de la connaissance la plus profonde que l'homme peut avoir de lui-même. Car le secret d'un homme, ce n'est pas son complexe d'Édipe ou d'infériorité, c'est la limite même de sa liberté.
Par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté.
Le prisonnier souhaite dire un mot.
Thank you.
Voilà, retour en studio pour notre débat sur les restrictions de liberté. Maxime, toi, en tant que juriste, est-ce que ces restrictions, donc, en parlant d'abord de celles en termes de mobilité, de droit à la mobilité, elles te semblent proportionnées en tant que juriste?
Il faut savoir évidemment qu'on a cité quelques droits et libertés, mais il y a aussi un droit fondamental qui est le droit à la vie. Et donc, le fait de pouvoir être protégé contre une menace qui est réelle, et pour certains citoyens, c'est une menace de vie ou de mort, en particulier les personnes à risque, mais ça peut aussi toucher les plus jeunes. Mais c'est quand même aussi une valeur qui doit être mise en balance, le droit à la santé. Ce sont aussi des choses qui sont protégées. Donc, d'un point de vue juridique, si vous voulez, la Convention européenne des droits de l'homme, qui est l'institution fêtière qui reconnaît les droits fondamentaux au niveau de l'Europe au sens large, prévoit des exceptions et des cas dans lesquels on peut limiter les libertés fondamentales. Et une de ces limitation possible, c'est évidemment pour protéger la santé ou la sécurité publique. Il faut rester attentif pour voir que cette pandémie ne devient pas l'occasion de restrictions exorbitantes aux libertés et aux droits fondamentaux. Mais dans le principe, évidemment, c'est surprenant, ces restrictions de liberté. Personnellement, je dois dire que je ne m'attendais pas à ce que des États comme les nôtres osent peut-être, que nos gouvernements osent prendre des restrictions aussi drastiques. Le confinement m'a vraiment étonné. Moi, j'étais persuadé qu'on allait attendre des mois avant de prendre des mesures et qu'entre-temps, ce serait trop tard, etc. Et effectivement, dans des pays comme la Belgique, comme la France, comme pas mal de pays européens, on a confiné une grosse partie de la population. Et puis maintenant, ce dont on parle, et puis les fêtes de Noël, etc., c'est très étonnant, d'un point de vue peut-être politique, que ça arrive et que ce soit en fait relativement bien accepté par l'opinion publique. D'un point de vue juridique, les principes peuvent l'admettre.
Mmh. Est-ce que c'est encore, si bien accepté par l'opinion publique, finalement? On entendait ici autour de la table qu'il y a quand même, pour certains jeunes, c'est quand même très, très difficile à comprendre. Vous confirmez ça? Est-ce que pour vous, comprendre, je pense que intellectuellement comprendre, ok, mais comprendre dans le sens d'accepter, est-ce que c'est difficile d'accepter, de sacrifier autant de ses libertés quand on a 15 ans est-ce que c'est...
Ouais. Et surtout qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer encore aussi. C'est assez flou comme sujet, en fait. Ça peut se terminer demain comme ça peut se terminer dans 2 ans, 3 ans.
Mmh. Je crois que pas mal de monde aurait aimé avoir une meilleure année que celle de 2020. Parce que là, on va quand même aller en 2021. On sait toujours pas où on va, en fait. Mmh. Mais même aussi par rapport aux restrictions, c'est aussi pour les maisons de repos. On peut pas y aller. Mmh. Mais eux, alors, ils ne voient plus personne. Et ils se laissent tuer, ils se laissent aller.
Est-ce que vous avez peur que les mesures de restriction dont on vient de parler, elles se reproduisent dans le futur? Est-ce que ça vous fait un peu peur de vivre dans un monde où il y a moins de liberté, en fait, quoi?
Mais en soi, quand il y a moins de liberté, il y a moins de sociabilité aussi. C'est vrai que le niveau social dans le monde, c'est un peu important parce que c'est pas bon d'être que tout seul. Il faut toujours avoir un peu de sociabilité.
Oui, on en a besoin. On a besoin des autres.
Moi, j'ai peur qu'ils nous fassent un faux espoir, en fait, comme la première fois. On a vu une première vague, en fait. Et après, tout le monde... après, ça s'est calmé. Donc, tout le monde pensait que c'est bon, c'était fini. Finalement, il y a eu la deuxième vague. Et j'aurais peur qu'ils nous redisent que c'est bon, c'est terminé. Et qu'il y ait encore une troisième vague. Et comme ça, jusqu'à je sais pas quoi.
On en parle d'ailleurs, d'une troisième vague, peut-être une autre encore.
En soi, tant qu'on n'a pas de vaccin et qu'il y a des moments où ils nous donnent plus de liberté, en soi, la vague, elle revient, vu que du coup, on est moins protégé. Donc en soi, ça n'aura pas de fin tant qu'on n'a pas de vaccin.
C'est effectivement ce qu'on entend, que l'espoir, c'est enfin un peu le...
l'espoir fait vivre, comme on dit.
Le seul espoir, entre guillemets, c'est ce vaccin, mais qui est annoncé et qui va arriver. Donc, il y a quand même, on entend cette crainte que ces restrictions de liberté soient réitérées et finissent par durer et finissent par nous sembler presque banales, alors que là, on a parlé quand même de toute une série de mesures qui sont tout à fait exceptionnelles et qui, pour tous les gens qui sont ici autour de la table, et pour toi aussi, Maxime, n'ont jamais été vécues de toute notre vie, quoi. Donc, ouais, c'est vrai que ça pose quand même question.
D'ailleurs, Damien, le micro-trottoir, où on a été sondé un petit peu les gens
on va écouter
du coin.
Le micro-trottoir qui a été réalisé par Clément et par Mathis.
Comment vivez-vous l'obligation du masque ?
Très simplement, je vis comme avant, sauf que le masque est là en plus, mais c'est tout.
Très mal.
C'est facile, ça protège très bien, c'est un des gestes les plus faciles. Je préfère porter du masque et voir, voir des gens. Et puis comme je disais, on est étudiant dans le centre de la santé, du coup... on est amené à porter des masques pendant notre carrière, donc on s'habitue déjà.
C'est quand même une grosse contrainte pour les cours, parce que moi je suis porteur de lunettes et forcément avoir des lunettes.
Ah ouais, oui, moi aussi. Cours,
c'est pas facile, mais c'est clair, c'est important.
Bah moi c'est pareil, je le vis mal. Il y a une petite dame que j'ai rencontrée hier de par mon boulot, qui c'est une petite française un peu révoltée, qui me disait ça fait des années que les Chinois ils portent des masques, ça les empêche pas de tomber malades. Et je suis vraiment d'accord avec ça. Je suis vraiment d'accord avec ça, vraiment.
Il n'y a aucune aviation là-dessus. Mm-hmm. C'est tout à fait clair. Si le virus continue à courir, si le virus circule, comme c'est dit par les experts, il faut mettre le masque.
Mm-hmm. Moi, je le vis pas très bien non plus. C'est un peu étouffant. On voit pas le visage des gens.
Alors, imaginez que demain on reconfine. Comment est-ce que vous réagisserez ?
Je me confinerai avec plus de monde. Comme ça, je suis gentiment.
Ouais, des amis, des trucs, c'est ça, ouais.
Mais c'est déjà, enfin, c'est dur entre guillemets, mais bon, on le ferait, il n'y a pas de soucis. On est étudiant en médecine, donc on va entre guillemets être les premiers à respecter ça.
S'il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison de rester. De toute façon, c'est débile ce truc. Hein, parce que... Est-ce qu'on a plus de morts en Suède, aux États-Unis
Ouais, je pense que ce serait compliqué à revivre une situation comme ça parce que maintenant on sait à quoi s'attendre.
Ce serait difficile parce qu'en fait j'ai mal vécu le confinement, pas mal vécu dans le sens, je veux dire, que ce qui était fait n'était pas juste, mais dans le sens que bon, c'était pas facile de rester cloué chez soi et ne pas pouvoir sortir. C'était un peu difficile.
Avez-vous eu l'impression qu'il y a eu des atteintes à votre liberté pendant ces derniers mois ?
Non, pas du tout. Je trouve que c'était normal. Et notre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Et donc, si pour protéger les autres, il fallait un peu se restreindre dans les contacts, dans la manière de se voiler le visage, etc. C'était pour un mieux, donc c'est très bien.
Tout le monde a eu des privations de liberté et c'est pour le bien de tout le monde. Donc ça devient... Une priorité en fait à respecter et pas une privation personnelle en fait.
Depuis que l'informatique existe, oui. Hein. Donc c'est pas d'aujourd'hui.
Ouais, mais il y en avait déjà avant de toute façon. Hein, je veux dire, c'était déjà le cas avant.
Là, ça a rien changé.
Là, ça a fait qu'accélérer. Non, mais je trouve que ça a accéléré quand même les trucs.
C'est réaccentué.
On est en plein opportunisme, on est en pleine époque de l'opportunisme, donc ouais, c'est une occasion à saisir et on l'a bien saisi.
Une autre question qui a été posée ici entre nous avec les jeunes, c'est la question de savoir si la sécurité sanitaire doit primer sur le bien-être, la santé mentale, j'ai envie de dire, des gens Mathis tout à l'heure a évoqué par exemple la situation des personnes dans les maisons de retraite. On en a beaucoup entendu parler dans les médias, qui est assez dramatique, où les gens sont empêchés d'avoir des visites ou en tout cas très très limitées, et en souffrent énormément. Et on peut se demander finalement, est-ce qu'ils ne souffrent pas plus de ça, de ces restrictions-là, que du Covid? Ouais.
C'est difficile. C'est évidemment que oui, il y a un impact sur la santé mentale, il y a un impact sur la sociabilité des personnes âgées, mais aussi des jeunes. Hein. Évidemment, j'imagine en particulier pour des jeunes comme vous, ça doit être un moment particulièrement difficile à vivre. Vous êtes aussi à un moment où la sociabilité, c'est extrêmement important.
Dans le développement personnel des individus, ça, ouais.
Ce sont des mesures qui sont extrêmement difficiles à vivre. Maintenant, tout dépend évidemment de la gravité du risque épidémique. Il suffit de regarder un petit peu les chiffres, mais c'est toujours un peu difficile à voir quand on est au milieu de la crise. Hein, mais les projections du nombre de morts, si on laissait faire l'épidémie, si on laissait courir, si on lâchait du lest sur les mesures, sont effrayantes parce que eh bien, dans une pandémie, dans une épidémie, la contamination suit une courbe exponentielle, donc ça double tous les X. Et donc avec une courbe qui double, hein, on a quelque chose où on arrive très vite à des dizaines, des centaines de milliers de morts. Et donc c'est quelque chose qui, quand on est dedans, ou quand on est arrivé à prendre des mesures préventives, ben on a toujours l'impression qu'on a exagéré, on a pris des mesures qui étaient trop strictes. Et effectivement, ça valait pas le coup, mais parce qu'on y est arrivé, évidemment. Donc c'est toujours un peu le dilemme de la prévention. Si on le fait pas, les gens critiquent parce que, on aurait dû le faire. Et puis si on le fait, on voit pas le danger assez gigantesque qu'on a évité.
Donc sur cette question-là, est-ce que la sécurité sanitaire, elle doit primer sur le bien-être de chacun?
Pour moi, non, elle ne doit pas. On passe d'abord le bien-être et après la sécurité.
Ouais, c'est compliqué hein, comme question. Ouais. Parce que bon, même si on a la santé mentale, il reste toujours l'insécurité du virus.
Ouais, voilà.
Donc si on devient malade, on est aussi moins bien mentalement aussi et physiquement. Donc ça joue un peu...
C'est très difficile de trouver une balance entre les deux. Quoi.
Ouais, il faudrait trouver un entre-deux.
Et vous faites confiance à qui pour trouver cet entre-deux, finalement? Est-ce que c'est les politiques à qui vous faites confiance dans les mesures qu'ils prennent? Est-ce que c'est les scientifiques? Est-ce que c'est... Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, j'aurais peut-être plus confiance... J'aurais peut-être plus confiance aux scientifiques qu'aux politiques, parce que... ils nous ont dit, ce sera fini après la première vague, on en a une deuxième. Du coup, ouais, non.
Ouais, je suis aussi pour les scientifiques.
Ouais. C'est okay. Eux qui connaissent mieux le domaine.
Tout en sachant que le politique actuellement se base quand même étroitement sur les scientifiques. Après, reste à savoir.
Mais pas toujours, on pourrait entendre l'avis de Maxime, mais moi j'ai quand même entendu plusieurs fois des scientifiques qui regrettaient. N'avoir pas été suffisamment écouté ou trop tardivement en termes juridiques. Qui est-ce qui est à la manœuvre? Comment ça se passe tout ça, Maxime? Est-ce que tu peux un peu remettre un petit peu le cadre?
C'est le gouvernement et le Conseil national de sécurité qui prennent les décisions. Alors, comme on est dans un pays compliqué, la Belgique, ça se fait parfois en concertation, et en fait, la plupart du temps maintenant, en concertation avec les différentes entités, les régions, les communautés, etc. Mais ça reste, c'est évidemment le politique qui est à la manœuvre, avec une consultation régulière des scientifiques. On sait que le nouveau ministre Frank Van den Broek est professeur d'université, et il a lui-même un background scientifique et il est assez, peut-être davantage que sa prédécesseur, à l'oreille, à l'écoute hein, de, de l'apport des épidémiologistes. Donc, il est tenant d'une ligne quand même plutôt rigoriste. Il me semble, en ce moment, il y a sans doute moins de divergences entre l'avis des épidémiologistes qu'il y a pu avoir ces derniers mois ou au cours de l'été, où on a vu effectivement les scientifiques qui mettaient la pression sur le gouvernement pour prendre des mesures, qui proposaient des mesures assez strictes, et puis le gouvernement qui finalement proposait des compromis, etc.
Mmh. Ok.
Moi, ouais. Je voudrais juste revenir sur un truc, expliquer pourquoi j'ai dit les scientifiques au lieu du gouvernement, parce que ouais. Le gouvernement, j'ai l'impression qu'ils auront tendance à plus nous rassurer, dire des choses pour nous rassurer, et je pense que c'est pas une bonne chose en fait. Je pense que c'est mieux de nous dire ce qui se passe vraiment, comment ça va se passer vraiment, que de nous rassurer en fait.
Donc toi, tu n'as pas une confiance totale dans ce qui est dit par les responsables.
Ils disent un peu ce qu'ils veulent en fait au fond. Donc, voilà.
Vous êtes d'accord avec ça, les autres ?
Ouais.
C'est plutôt du mensonge quand on veut rassurer, donc c'est pas très bien.
Mm-hmm. Toi, Evie, qu'est-ce que t'en penses ?
Ah, elle a pas tort.
Mm-hmm. On peut peut-être faire une petite pause détente et on va écouter...
La fiction.
La fiction réalisée par...
Iba et Mariana qui vont nous plonger dans une forme de dystopie de 2 minutes... Alors attention, il y a des drones, vous allez voir, c'est assez rigolo. Enfin, rigolo...
Flippant.
Ouais, flippant. Ouais.
Néanmoins, il faut le reconnaître, il est inutile de l'imposer partout, tout le temps. C'est pourquoi, dès le 1er octobre, le masque ne sera plus obligatoire. Plus obligatoire. Plus obligatoire. Plus obligatoire.
Putain... Attends, j'en ai marre. Vas-y, c'est bon, je l'enlève.
De la police. Vous ne portez actuellement pas de masque. L'obligation du port du masque prend fin très exactement dans 2h30. Veuillez suivre le drone jusqu'au commissariat. Veuillez vous arrêter immédiatement. En état d'arrestation. Veuillez vous arrêter immédiatement. Ceci est un drone de la police.
Je crois que je les ai semés. Ok. Je crois que c'est bon, je les ai semés.
Excitement, oh, I need it bad. And it's the best
Retour en studio pour notre débat sur les restrictions de liberté. Donc, on est au mois de décembre, les fêtes de fin d'année approchent. Est-ce que ce droit de se rassembler en famille, il va nous être aussi refusé, Maxime, qu'est-ce que tu en penses ?
Je ne sais pas faire de prédiction, évidemment. Je pense que pour le moment, les mesures... concernant la bulle sociale, sont extrêmement limitées à l'extérieur de la bulle du foyer. Les signaux qu'on entend sont que ça va être difficile de l'élargir pour permettre en tout cas des fêtes de Noël normales. Oui, vraisemblablement, il y aura des limitations très strictes sur peut-être le nombre d'invités extérieurs qu'on pourra avoir par famille, 1, 2, 3, 4. La question c'est finalement comment est-ce qu'on peut être sûr que ces mesures seront appliquées, mais c'est la question qu'on peut se poser plus généralement, hein. Et dans quelle mesure il faut les contrôler avec un contrôle coercitif, ça c'est évidemment aussi une question très délicate.
Vincent.
Mais moi je voulais du coup retourner la question aux jeunes, parce que c'est vrai que les fêtes de fin d'année, c'est quand même un moment très important et symbolique. Donc un petit tour peut-être de micro pour voir un petit peu ce que vous pensez de tout ça.
Moi je voulais dire, je pense qu'il y a énormément de gens qui respectent ces règles, mais pour Noël qui vont quand même l'enfreindre en fait, parce que Noël c'est quelque chose de... c'est un rassemblement en fait de famille. Quand la famille habite pas forcément
ensemble,
tous ensemble, quoi. Donc c'est quand même un rassemblement assez important. Et si on peut déjà pas se voir en dehors, Noël c'est quand même assez important. Donc je pense qu'il y a quand même énormément de gens qui vont le fêter en famille. Donc je sais pas si ça va être vraiment très respecté.
Toi t'en penses quoi, Evie ?
Moi je sais pas, vu que je vois pas ma famille.
Ouais, pour le moment.
Donc ça m'est égal.
Daphné, toi ?
Moi, déjà, bien avant le Covid, j'avais demandé à ce qu'on fête Noël juste entre nous à la maison, donc ça change pas grand-chose. Mais je suis pas sûre non plus, comme Manon, que tout le monde va respecter ça. Vu que c'est quand même un bon moment, Noël.
C'est important pour toi aussi, Mathis, par exemple, de pouvoir...
Parce que Noël, c'est quand la famille elle est dans un autre pays ou... on les voit pas tous les jours. À ce moment-là, on raconte ce qu'on a fait durant l'année ou des choses gays, on reçoit des cadeaux. Pour moi, Noël, c'est aussi pour certains, ça peut être aussi les fêtes d'anniversaire. Il y a un peu de tout dans Noël. Il y a le joie de la famille.
Donc la restriction sera d'autant plus difficile à accepter, les restrictions en termes de rassemblement de personnes seront d'autant plus difficiles à respecter à ce moment-là, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça.
Ouais, très difficile.
les jours de fête.
On a parlé aussi, Maxime, donc dans les médias, on entend parler de quelle façon va-t-on pouvoir vérifier que ces mesures... Donc Manon, tu disais, je ne pense pas que les gens vont respecter des mesures qui empêcheraient de se rassembler, de voir la famille. Est-ce qu'on peut imaginer que des policiers viennent sonner à notre porte le 24 au soir, quand on est en...
Il y a eu une intervention assez étonnante à ce sujet de la ministre de l'Intérieur alors je sais pas s'il répondait à une question mais ça me paraissait peut-être pas la communication la plus adroite puisque elle a dit la police pourra aller sonner chez les gens mais par contre en principe ils pourront pas rentrer chez les gens suite à quoi un syndicat de police a réagi dans la presse pour dire ah si si en fait pour certaines mesures qui touchent à l'ordre public, j'imagine, où la police pourrait même rentrer chez les gens sans mandat. C'était un peu une séquence un peu étrange. Je pense que ce serait vraiment donner un signal assez horrible, déjà, non seulement de limiter ou de, pourquoi pas déplacer la fête de Noël. Hein. Je trouve qu'il y a peut-être d'autres positions peut-être plus constructives, mais en tout cas, d'avoir des contrôles policiers et d'aller vérifier les réveillons des gens. Je crois que ce serait très très mal perçu dans la population. On vit dans un pays dans lequel tout un tas de mesures qui peuvent être très restrictives, comme le confinement, etc., sont en fait appliquées. On sait qu'une série de personnes ne vont pas le respecter, mais on ne l'applique pas strictement. On pourrait, par exemple, comme dans certains pays, vérifier que les gens se mettent en quarantaine en les appelant. Toutes les X heures chez eux pour vérifier qu'ils sont chez eux, on ne le fait pas parce qu'on estime qu'il est préférable que les gens adhèrent aux mesures, ils soient d'accord avec les mesures.
Est-ce qu'on ne peut pas partir sur un principe plutôt de confiance? On en a entendu parler aussi dans certains pays, je pense au Canada, j'ai entendu que le gouvernement passait entre guillemets un contrat de confiance comme ça avec les citoyens. Je ne sais pas si tu peux me confirmer ça pour les fêtes de Noël. Voilà, qu'ils ont d'emblée annoncé le cadre qu'on propose, c'est celui-là, et on ne va pas vous fliquer pour vérifier que les mesures sont respectées, mais on vous fait confiance, quoi. C'est l'idée de...
Oui, je ne connais pas la situation canadienne, mais je pense que ce serait effectivement beaucoup plus, ce serait bien préférable, et je pense aussi que dans le cadre d'un contrat pareil, on pourrait imaginer si... peut-être une approche plus positive serait de dire si on, entre guillemets, on annule Noël cette année ou si on considère qu'on pourrait le reporter, mais alors le gouvernement pourrait aussi prendre des mesures pour déplacer le jour férié et peut-être permettre aux personnes, on pourrait dire qu'en 2020, la fête de Noël aura lieu en février et tout le monde aura congé.
Vous en pensez quoi de ça? Déplacer Noël? Ça vous fait réagir comment?
Moi, ce serait... pas très bien vu que moi mon grand-père il naît le jour de Noël, donc rien que pour ça ça me ferait chier.
Mais après, c'est vrai que c'est bizarre, hein.
C'est très bizarre, mais ouais, c'est très bizarre. Alors,
ouais, Noël, pour les religions, Noël, quoi, donc,
aussi pour les religions.
Ok, et sur l'idée de plutôt miser sur des mesures de confiance, de faire confiance aux gens plutôt que de rajouter des limitations et des restrictions, ça vous semble bien?
Et ça sera le mot de la fin, Damien.
Ouais, tout à fait.
Ce serait bien de nous faire confiance, parce que moi j'ai l'impression que la loi ne nous fait pas assez confiance.
D'accord avec ça?
Le souci c'est que si on enlève trop, ça va juste dégénérer.
Si on enlève trop de quoi?
De liberté. Donc,
encore une fois,
pour moi c'est plutôt compréhensible.
Ok, super. Eh bien, merci à tous. On doit en rester là pour aujourd'hui. On va remercier très chaleureusement notre invité, Maxime Lambrecht. Merci à toi, Maxime.
Merci.
Et à très bientôt. On se retrouve le mois prochain, en janvier. Salut à tous.
Salut.
Et bonne fête.
Bonne fête à vous.
Au revoir.
Au revoir.